Maintenant, tu vas voir comment se parlent les vrais mecs.
Dylan! Sale petit enfant de putain!
C'est de cette façon que les vrais mecs se parlent.
Bonjour à tous, donc...
Bonjour à tous.
La RMR, The Real Man Returns. Bonjour Gaston.
Bonjour Lorenzo.
Donc nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de la virilité.
Dans un monde de plus en plus tiraillé entre progressisme, l'homme alpha serait-il en voie de disparition dans les pays développés d'Occident?
Pour commencer, je voulais vous faire donc une histoire de la virilité de l'Antiquité à nos jours.
Hein. Mm-hmm.
La virilité, déjà le mot virilité, le terme vir désigne le mâle. Donc en sanskrit, c'est le vira, signifiant héros, fort. Et ce terme de vir est souvent lié au mot virtus, non pas la vertu au sens moderne, mais l'ensemble des qualités qui font les capacités d'un homme, la valeur morale et physique.
Mental et spirituel, quoi, quelque part.
Les talents, la vigueur et la bravoure.
C'est ça.
Voilà. Gaston, donc pour nous, la virilité, donc ça vient donc d'un terme romain. Chez les Grecs, c'est Andrea. L'Andrea qui est donc... L'Andrea chez les Grecs et donc la virilité chez les Romains. Donc, qu'est-ce que c'est que la virilité pour les Grecs et les Romains? Donc, la virilité, c'est surtout la maturité, la vigueur, le don de soi, jusqu'au sacrifice et la puissance sexuelle. Donc, c'est surtout très, très marqué chez les Grecs. Et les Grecs, c'est vraiment... Ils ont vraiment une capacité... Enfin, c'est vraiment la capacité à...
Je sens que tu vas me parler de pédérastie, là.
Malheureusement, et le truc, en fait, c'est ça. C'est que les Grecs, il faut qu'ils imposent leur domination sexuelle à tout le monde. Donc, hommes, femmes, enfants.
Enfants,
voilà. Y a pas de
passage de l'enfant à l'adulte.
Des vrais bonobos. Voilà. Alors que les Romains, il va y avoir une petite nuance, c'est-à-dire que chez les Romains, celui qui est passif dans le sexe va avoir une connotation un peu plus négative que celui qui est actif.
Ce qui est un peu le cas finalement aujourd'hui. On a gardé cette empreinte un petit peu de...
Oui, je sais pas si aujourd'hui...
Ou, en général,
oui, voilà, mais on va dire que c'est faut vraiment voilà, imposer sa capacité sexuelle à assouvir son désir.
Très bien.
Donc, chez les Romains, donc les canons physiques de la virilité, ce sont donc des athlètes poilus et bronzés. Hein, voilà.
C'est peut-être pour ça que les statues sont en bronze, d'ailleurs.
peut-être. En ce qui concerne donc, le rite de passage de la maturité, c'est vraiment... Ça se fait par une sodomie.
Ce sont des valeurs profondes.
Quoi. Voilà, exactement, des valeurs profondes. Du sachant à l'élève.
À l'élève.
Et... Donc, en ce qui concerne donc, la vigueur, le don de soi, le sacrifice, c'est surtout la forme physique, l'art de la guerre. Je pense que pour toi et moi, on sera quand même plus près d'une vision romaine de la chose que grecque.
Oui.
Hein, je...
Oui,
parce
oui,
que bon,
En gros, on n'a pas besoin d'enculer tout le monde pour...
pour se sentir
pour
homme.
Pour se sentir homme et viril et masculin, dominant. Enfin, voilà, moi, je...
Nous sommes totalement d'accord.
Perso, j'ai un enfant... Voilà, je n'ai jamais titillé trop de balles.
Voilà, mais heureusement d'ailleurs, hein, parce que tu pourrais avoir des problèmes. Hein, hashtag Richard Berry. Donc, ensuite, donc même en ces temps troublés, en ces temps où la virilité était reine, où le mâle et les hommes étaient, Emma et Laure, bien entendu,
bien sûr.
Étaient représentés en tant que tels, il y avait quand même des crises de la virilité. Déjà, on se plaignait que les hommes n'étaient pas assez virils. Par exemple, chez les Grecs, dans l'Iliade, Homère se plaint de la faiblesse des jeunes générations. Et chez les Romains, Suétone méprisait César car il s'épilait le corps, mais aussi parce qu'il était l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les hommes.
Ah oui, d'accord.
Et c'est pour ça cette vision un peu... comment dire... négative de celui qui subit l'action.
Et il l'a subi jusqu'à son dernier instant, du coup, hein, puisqu'ils étaient plusieurs à le poignarder.
Effectivement. Merci, Brutus. Mon cher Gaston, comment ça se passe chez les barbares? Parce qu'on sait que l'Occident a été envahi par les peuples barbares. Et donc
on ne parle pas des barbares d'aujourd'hui qui sont en France, du coup.
Pas ceux qui poignardent des gens. Voilà. eux aussi, certainement, devaient poignarder des gens. Donc, les peuples comme les Huns, les Vandales et les Visigoths, hein, par exemple, hein, pour se figurer un peu qui étaient les barbares, donc eux, ils privilégiaient la virilité guerrière. Ils refusaient les modèles grecs et romains qui étaient trop luxueux, trop dans le confort.
D'accord.
Trop dans le confort, okay. Et ça, vraiment, ça les dérangeait. Et puis surtout, c'est que ils avaient aussi un problème avec l'adultère. Ce côté de coucher avec tout le monde sans aucune distinction, ça les dérangeait.
D'accord.
Faut savoir que, par exemple, chez les Grecs, par exemple, moi, Lorenzo, j'ai une femme, je trouve que Gaston est super viril, super beau gosse, d'accord, qu'il est le mâle à l'état pur.
Okay.
Et ben, je peux venir lui demander de me faire des enfants, en fait, parce que finalement, c'est ma femme, donc elle va subir le joug de Gaston,
d'accord,
parce que moi, je veux des enfants avec la génétique de Gaston.
D'accord, très bien.
Par exemple. Donc ça, les barbares le voyaient d'un mauvais œil.
Ça peut se comprendre.
Oui, après, est-ce qu'ils étaient si barbares que ça?
C'est finalement
et voilà.
Les progressistes des temps anciens.
Exactement. Ensuite vient le Moyen-Âge, donc là, on commence à être dans l'an 1000. La virilité s'incarne surtout donc avec le chevalier, hein, en armure.
L'armure, le guerrier. Quoi.
Le guerrier, toujours, ça reste assez guerrier, et dans le courtisan. Donc là, on commence à avoir donc aussi le lettré, l'homme intelligent, qui a des capacités intellectuelles, c'est un signe de virilité. Donc ensuite, on vient à la Renaissance. La Renaissance, donc la virilité se sépare vraiment du chevalier. Fini le brut.
Au placard, les ringards.
Voilà, fini ces hommes sans cœur, sans pitié, qui trucident, qui tuent. Ouais. Terminé, fin fini. Voilà, on favorise un homme ayant le goût de la littérature et l'amour pour toi.
On se dirige finalement vers Diderot, Rousseau, Voltaire. Quoi. Gentiment.
Le gentleman. Bon.
on passe de l'ombre à la lumière.
Si j'ose dire. Si j'ose dire.
Pour ceux qui nous ont suivis.
Merci, Gaston.
On en a perdu quelques-uns.
La virilité se manifeste surtout dans l'hétérosexualité et l'élégance. Par exemple, Henri III se maquillait, portait des perruques et des bijoux. C'est l'époque du bourgeois gentilhomme, certes efféminé,
ouais,
mais viril.
Mmh.
Et oui, Gaston, parce qu'on n'est pas...
Là, on est au 17e, quoi, à peu près.
Montaigne.
Oui, d'accord. Okay.
Et donc, notamment, là encore, hein, il y a quand même une crise de la virilité, parce qu'on remet toujours en cause cette virilité du temps passé. Et Montaigne, notamment, dans ses essais, évoque une nouvelle crise de la virilité par... Pour lui, le recul de la force, le recul de l'homme fort, c'était finalement une crise de la virilité. Ensuite viennent les Lumières, hein, les fameuses. Donc là, les philosophes remettent en cause, en fait, ils n'appellent plus virilité cette puissance de l'homme sur l'homme. La noblesse sur le tiers-état, c'est pas de la virilité pour eux. Donc c'est considéré comme tyrannique et il faut en sortir.
D'accord, c'est un poids social tyrannique de la part des tout-puissants.
Exactement.
D'accord. Très bien.
Ensuite, donc, on a le 19e siècle. Et là, quand on arrive au 19e siècle, la révolution industrielle qui avance.
Oui, c'est ça, on est en 1800.
Exactement, donc la révolution industrielle qui avance, mais en France, c'est d'abord en Angleterre. En France, c'est déjà un peu plus tard, ça démarre un peu plus lentement et un peu plus tard. Et donc, du coup, là, la virilité entre la fin de la monarchie et la révolution industrielle, ça va être les professions représentant l'ordre ou la force physique. Donc ça va être le mineur de la mine, ça va être les policiers, ça va être tous ces gens qui vont représenter la vérité, l'ordre, le mal à l'état pur.
L'artisanat et l'industrie, finalement.
Exactement. Là, la révolution industrielle, donc, comme j'en parlais précédemment, avec ses avancées technologiques, vient concurrencer le statut de virilité. Mmh. Et donc, du coup, les hommes perdent petit à petit l'intérêt qu'ils ont de leur force physique. Parce que bon...
Si la machine peut le faire.
Voilà, alors je sais qu'on va rentrer dans le moment un peu dur des choses, mais la nature montre, je crois, hein, si on suit les siècles et des siècles, que l'homme physiquement est un petit peu plus fort que la femme. Pas de beaucoup, hein, pas de beaucoup, mais plus fort.
Est-ce que ce serait pas pour ça que depuis la nuit des temps, on l'envoie à la guerre? Lui
C'est une question qu'il faut se... Non, mais c'est une question qu'on se posera dans les prochaines émissions.
On y viendra.
Voilà.
On arrive.
Voilà. Ne partons pas trop.
Ne pas citer sans pas les choses, nous avons des tas de sujets dans les tiroirs.
Exactement, exactement. Et donc, du coup, comme la technologie vient remplacer l'homme dans l'industrie, notamment les temps modernes, Charlie Chaplin, on voit qu'on automatise de plus en plus, que même un homme comme Charlie Chaplin, qui est assez freluquet, peut travailler dans les chaînes.
Peut produire, c'est surtout le
la production.
De production, bien sûr. La valeur de l'homme passe par la production.
Exactement.
On est d'accord.
Et de par conséquent, il se voit un petit peu challengé. Ensuite vient le XXe siècle. Et là, on finit le tableau. Là, la virilité se prend deux balles dans la tête. Là, entre les guerres mondiales, le chômage.
L'avènement de la cause féminine aussi, également. Puisque...
Oui, mais en fait, c'est parce qu'il y a l'un qu'il y a l'autre.
Il y a l'autre, tout à fait.
Et donc les guerres mondiales, et donc surtout la première guerre mondiale, la guerre des tranchées, qui a vraiment usé le peuple français et le nombre de gueules cassées qui reviennent de la guerre. Tous ces gens-là, donc tous ces gens-là, en fait, ne veulent plus de la guerre, ne veulent plus, en fait, de tout cet héritage d'hommes forts, de mâles, M-A-L-E, et en fait, renoncent. Et donc, ça casse vraiment l'image de l'homme viril, défendant et pourvoyant aux besoins du foyer. C'est vraiment définitif. Donc, on va dire que la vérité brutale renaîtra avec l'Allemagne nazie, avec l'idéologie de l'Übermensch aryen, qui souhaite que l'homme devienne une machine, et d'où c'est dans les camps nazis, donc les camps de sport, chez la jeunesse hitlérienne, c'était très important que les jeunes fassent du sport, s'entraînent.
Je crois que d'ailleurs c'est pour ça que ça n'a pas plu à Hitler qu'en 1933 à Berlin, Jesse Owens a gagné la finale du 100 mètres, devant ses athlètes germaniques.
Ça ne lui a pas plu, mais Jesse Owens, rentrant aux États-Unis, a quand même dit « J'ai été mieux traité par l'Allemagne nazie que dans mon propre pays. »
À réfléchir.
Et voilà, il faut méditer cette phrase, parce que je ne suis pas sûr que beaucoup la prouveraient aujourd'hui.
C'est l'amertume de la défaite, finalement, plus le fait qu'il était noir que
oui.
Qu'il n'a pas plu à Hitler, je pense.
On pourra revenir sur les idéologies. Voilà, on pourra revenir sur les idéologies hitlériennes et des races, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, et aujourd'hui, en fait, la vérité ne se résume qu'à des patterns physiques, donc exaltés dans le sport comme le rugby, le bodybuilding ou le free fight. C'est vrai que aujourd'hui, la vérité, ce n'est que une façade physique qui fait que de par les patterns d'une mâchoire carrée, des épaules larges, des muscles saillants. Et c'est à peu près tout. Et intellectuellement, il n'y a plus vraiment cette recherche. L'homme lettré, c'est plus vraiment considéré comme quelqu'un de viril. Aujourd'hui, on va dire que intellectuellement, le virilisme est souvent associé à la misogynie, au machisme.
Oui, même tu peux dire au fascisme aussi sur certains publics.
Oui, après, quand on rentre dans les extrêmes, bien entendu.
Aujourd'hui, se revendiquer viril masculin, on a l'impression que c'est limite, c'est sujet à polémique.
Pour moi, il y a deux descendants en fait. C'est-à-dire que le descendant du chevalier, ce serait aujourd'hui le beauf. Cet homme un peu bourru, un peu ours, qui a ce physique un petit peu hors norme et qui est...
On en connaît.
Voilà, qui est un peu brut, un peu brutal. Et de l'autre côté, on aurait donc dans la comment dire... Du côté du courtisan, on aurait l'homme un peu Don Juan, qui passe de conquête en conquête, un peu macho, qui pense que la femme est juste là pour assouvir son désir sexuel. Voilà les deux descendants, je pense, de la virilité.
On en connaît aussi,
bien entendu. Voilà. Mais ce sont les deux descendants de la virilité. Et c'est vrai que aujourd'hui, bon, ces deux descendants sont archétypaux, soit, mais aussi on les prend un petit peu pour... on les dénigre beaucoup. Et voilà, pour mon petit exposé sur la virilité. Donc, maintenant, Gaston, je crois que tu voulais nous parler de quelque chose.
Lorenzo, effectivement, je voulais vous parler... Moi, j'ai planché un petit peu de mon côté.
Oula.
Je voulais vous parler, effectivement, sur la... la diminution du taux de testostérone dans à peu près un demi-siècle dans nos sociétés civilisées dites modernes. Donc en fait, effectivement, moi la question...
Gaston. J'ai une question, Gaston.
Oui.
Est-ce que le taux de testostérone a quelque chose à voir avec la virilité ?
Très bonne question, effectivement. Alors, dans le sens où, si vous voulez, mon cher Lorenzo, la testostérone joue quand même sur les caractères physiques, on va dire.
Donc, ces fameux patterns dont on parlait tout à l'heure.
Dont tu parlais, voilà. Donc, effectivement, y a peut-être un étroit lien entre testostérone et virilité, dans le sens où elle est quand même responsable des caractéristiques physiques primaires masculins.
Très bien.
Et quand j'entends, donc j'entends quand je dis masculin, j'entends bien sûr du système pileux, d'une voix grave par exemple, des arcades sourcilières prononcées, etc. Tu as eu la réponse à ta question ?
Bien sûr.
D'accord, très bien. Donc moi aujourd'hui, la question que j'amenais sur la table, c'était de par cette baisse de...
Testostérone ?
De testostérone, j'allais dire plutôt d'hormone mâle. Hein, mais bon.
D'hormone mâle. Appelons-la l'hormone mâle.
Voilà. Parce que, bon, c'est comme ça qu'elle s'appelle, finalement. Est-ce le début, là, de la civilisation occidentale qui s'autodétruit progressivement ? Mais sûrement. Par son mode de vie ou par d'autres facteurs. En 2007, il y a une étude de cohorte américaine qui a révélé un déclin donc c'est une étude scientifique, hein. Un déclin conséquent du taux de testostérone sur les... Alors là, ils étaient sur les 20 dernières années. On est en 2021, donc on peut estimer maintenant que c'est sur les 34 dernières années, puisque on était en 2007. Donc, ils ont pris une population d'hommes américains, environ 2000 personnes, et ils ont donc évalué la baisse de testostérone à 1% par an, non liée à l'âge. C'est-à-dire que c'est, selon eux... La science est très confuse là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore d'explication précise. On ne peut pas dire c'est l'environnement, c'est la bouffe de merde que vous ingurgitez, c'est l'obésité, etc. Moi, si on demande mon avis, je ne suis pas médecin. On aura un médecin comme invité à l'avenir.
On espère.
On aura un médecin prochainement.
Qui pourra nous en dire plus.
Voilà. Et qui pourra confirmer ce que je dis. Mais moi, je pense que c'est un tout. C'est-à-dire que c'est un tout. Mais je vais y venir. Donc, est-ce qu'on parle de la conséquence de la baisse ? J'ai pas envie tant de m'attarder là-dessus, parce que la conséquence de la baisse de la testostérone, finalement, bah c'est, on le connaît tous, c'est la baisse de production de spermatozoïdes. La fertilité est forcément mise à mal.
Ah, donc du coup, la conséquence du baisse de testostérone serait la fertilité ?
Pour la conséquence, effectivement. Donc, pour revenir, parce qu'ensuite, suite à cette analyse, cette étude...
Ce constat,
voilà,
suite au constat du fait que...
Ce qu'on appelle une méta-analyse, au sens large, réalisée en 2017, qui, justement, a analysé la fertilité des hommes dans le monde via la quantité de sperme, d'accord ?
Donc, ils mettent en lien la quantité de sperme...
La baisse de...
Et la baisse de testostérone.
Voilà, tout à fait. Et c'est là qu'on, vis-à-vis des Occidentaux, on a retrouvé... Alors, quand je dis Occidentaux, Amérique du Nord... Europe, Australie. Bon, pour la petite leçon d'histoire, hein, les Australiens, ce sont les anciens colons anglais, voilà, britanniques. Non, mais on va faire le préciser. Avec une dégradation nette de la qualité du sperme et du nombre de spermatozoïdes, en comparaison aux hommes asiatiques, africains ou sud-américains. Donc, c'est-à-dire, on va dire, des sociétés qui seraient restées quand même encore à peu près traditionnelles.
Oui, voilà, effectivement.
Alors, quoi. Traditionnel par la nourriture.
Traditionnel par rapport à ce qu'on expliquait les Grecs et les Romains.
Hein. Voilà, exactement. Et le plus inquiétant, et alors ça m'attriste comme ça peut me faire rire, c'est que si cette dégradation continue, les auteurs donc, de l'étude prévoient la stérilité des hommes occidentaux pour 2060.
Ah oui, d'accord.
Donc, parce qu'on parlera du grand remplacement plus tard.
Non, mais alors ce qui veut dire que moins on a de testostérone, donc, et moins plus on est stérile. Et
c'est-à-dire qu'elle joue sur la production de spermatozoïdes.
D'accord, donc on ne crée plus de spermatozoïdes.
Bah, ils vont être moins nombreux et ils vont être moins réactifs.
D'accord.
Donc en gros, ce sera moins de la graine de champion. Voilà.
Ok, parce que oui, il faut un vainqueur hein, dans ces moments-là.
C'est ça. Et là, j'en viens donc aux causes, puisque là, on a parlé des conséquences. Maintenant, c'est la cause. Donc, alors, là, c'est pas complètement compris par le corps scientifique. C'est pour ça que je rebondis toujours, je m'appuie sur des études. Donc, c'est par le corps scientifique. Alors, c'est multifactoriel selon le croisement d'études que j'ai pu faire. il y avait d'abord et en premier lieu, ça c'est indéniable, c'est le mode de vie moderne. Donc,
la sédentarisation.
Sédentarité, tout à fait. On dort moins qu'avant. On est beaucoup plus devant des écrans. On a moins le temps de faire à manger. Les produits, c'est plus la ferme d'à côté. Tchernobyl en 86, et j'en passe. Enfin bref.
Et tout ça joue sur. Jouerait, en fait.
J'en viens là. Je sais où tu veux m'emmener.
C'est la cause qui ferait qu'on a moins de spermatozoïdes. Enfin, moins de testostérone.
La cause nous emmène aux conséquences, effectivement. Alors, le principal facteur, donc, qui dit mode de vie moderne, dit obésité.
Oui, d'accord, bien voilà. Sûr.
Et donc, ça, apparemment, ce serait vraiment. Ce qu'ils arrivent à dégager, ce serait vraiment le facteur numéro un, dans le sens où les cellules graisseuses, elles convertissent la testostérone en oestrogène. D'accord ?
D'accord.
Et donc, ça provoque, de fait, une baisse du taux de testostérone.
D'accord.
Là, c'est le cercle vicieux, puisque la baisse de testostérone provoque la prise de masse grasse. Moi, je te cache rien, tu t'y connais un petit peu aussi, au détriment de la masse musculaire. Ok ?
Mm-hmm.
Toujours pareil, une récente étude de cohorte, on est en 2021, ça doit être d'il y a 2-3 ans, 2018, a montré que l'état de santé et les modes de vie, comme le développement d'un diabète, l'obésité, la perte d'un conjoint apparemment, tu vois, elle m'a quitté, je lui ai tout donné, pourrait avoir un impact négatif sur le taux de testostérone. Donc le fait, effectivement, est-ce qu'à l'époque, ça ce sera un de nos sujets futurs, est-ce que dans le temps, la dépression, on en faisait tout un cinéma, est-ce qu'il y avait, tu vois, parce qu'il semblerait que ça joue sur les taux hormonaux.
En sachant que la France est l'un des pays les plus dépressifs du monde.
Les plus gros, oui, tout à fait. Et bien d'ailleurs, le médecin qu'on invitera pourra peut-être nous parler de ça.
Oui,
en termes de
bien entendu.
C'est, voilà, c'est quelqu'un qui travaille à SOS Médecin. Enfin, on l'invitera.
Très bien.
Dans nos émissions futures. Et donc, pour finir là, ma petite participation, l'obésité, la malbouffe, la vie moderne, mais aussi, du coup, tu parlais tout à l'heure du monde nouveau, du XXe siècle. Le XXe siècle a vu émerger la chimie, la pétrochimie.
Tout à fait.
Les plastiques, les emballages, et c'est là où l'on vient.
Perturbateurs endocriniens.
Voilà.
Le fameux.
Ça, par contre, ils sont.
Benoît Hamon va être content là. Voilà. Là, tu marques des points.
Malheureusement, c'est pas trop mon copain, mais.
Ah.
là, ils sont à peu près unanimes les chercheurs là-dessus, c'est-à-dire que ils mettent en cause l'exposition à tout ce qui est pesticides. Donc ça, je pense que, allez, sur le XXe siècle.
Bah, ça n'existait pas avant. Ça,
voilà, on compare le 19e et le 20e siècle. Clairement, les pesticides, on en a bouffé depuis les années 50. C'est monstrueux. Et donc, les fameux perturbateurs endocriniens, comme le bisphénol, le fameux bisphénol dont on entend parler depuis des années, l'ephtalate, le triclosane, tout ce qui est contenu dans le plastique et qui mime en fait les effets des oestrogènes. Et donc, inhibe la testostérone. Voilà, mon cher Lorenzo, pour ma participation.
Très bien.
Voilà ce que je peux te dire.
Alors du coup, toi-même, donc...
Si tu as des questions, oui, peut-être, sur comment améliorer les testostérone, comment...
On sait ce qui peut... Alors, moi, j'imagine que, bon, bah, du coup, si l'obésité est un frein à la testostérone, j'imagine qu'il faut faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie et être assez sec, du coup.
Disons que le fait d'avoir une bonne hygiène de vie, là, on a un sportif avec nous, le fait d'avoir une bonne hygiène de vie... Forcément, meilleur sommeil, meilleure nutrition, meilleure récupération. Je pense que c'est plus propice que d'aller faire la chouille, de bouffer des hot dogs tous les jours.
Effectivement.
Et de boire.
Notre ami sportif, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous sentez un.
Mathias nous a rejoint il y a 5-10 minutes. Crossfitter, sportif en tout genre.
En fonction de votre taux de variance de graisse, si vous surveillez ce genre de choses. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez plus la patate, plus la pêche, plus vous êtes plus mal, M-A-L-E, bien entendu.
Non, pas du tout. Bah, après, t'es plus à l'aise dans ton fitness, oui, quand t'es plus sec, hein, on est d'accord. Après, ça joue sur les performances, on le sait aussi.
Mm-hmm.
Après, tout ce qui est biologie et tout ça, j'y connais moins.
Non, mais justement, c'est une question de ressenti, c'est-à-dire que...
Ça, on est d'accord, hein, quand on est sur un BF de 30 ou 35, quand tu te réveilles le matin, t'as plus la tête dans le cul que quand t'as un BF de 15 ou de 20, t'es plus...
Ça part.
D'accord, donc tu dirais que tu te sens vraiment plus à l'aise quand t'es plus mince que quand t'es plus gras.
Tu te sens délesté.
Même pas une question de poids, hein, mais c'est plus une question de d'état d'esprit dans la vie de tous les jours.
Bien manger, bien bouger.
Plus alerte, plus plus vaillant, plus tonique et peut-être même plus à un...
Non, mais moins endormi. Alors après,
plus accru sur peut-être la gente féminine aussi, peut-être.
Je suis toujours en crime.
Voilà. Très bien.
Non. Je dirais que ce qu'on consomme aussi, ça y joue beaucoup. Je pense que quelqu'un qui est sec mais qui bouffe beaucoup de féculents, des pâtes, des machins, des trucs, je pense que ça doit pas mal l'endormir aussi.
D'accord.
Pas se mentir. Alors que quelqu'un qui va peut-être être entre guillemets un peu plus fat, mais qui va manger beaucoup de légumes, de fruits et tout, ça, bah, avec tous les bons minéraux, les bons nutriments et tout ça, ouais. Parce que ouais, quand ton intestin il est en train d'absorber de partout, bah, je pense que ça bouffe de l'énergie, on est d'accord. Ils disent, je crois que c'est l'intestin qui est le deuxième cerveau ou un truc comme ça.
Alors c'est ça, je crois que la digestion est la première source de stress oxydatif dans l'organisme, effectivement. Ça va vérifier.
Ah oui, d'accord.
Oui.
C'est pour ça que souvent, enfin, il n'y a pas de bon régime. Il faut être ouvert à tout, manger tout. Et puis, je pense que si on mange de tout, à outrance, même si c'était simplement de l'eau, ce ne serait pas bon. Si on buvait 10 litres d'eau.
Oui, c'est ça, c'est la dose qui fait
le plus. Et alors, jeune crossfitter.
Mathias.
Mathias, est-ce que vous pouvez aussi nous parler. Mathias, est-ce que tu peux nous parler aussi de ta vision de l'homme viril en 2021? Pour toi, qu'est-ce que c'est que l'homme viril? L'archétype pour toi d'un homme viril, qu'est-ce que c'est?
Bah, pour moi, c'est. Après, c'est lié au sport, hein. C'est déjà un physique un minimum imposant, je dirais.
D'accord.
Ça, donc après, il y a des gens qui sont très virils, qui n'ont pas forcément un physique, mais qui ont une prestance, en fait.
Donc, alors, tu distinguerais d'un côté les caractères physiques.
Ouais, s'il n'y a pas d'interaction, c'est le physique qui prime,
bien sûr. On en revient au chevalier, quelque part, un petit peu.
Voilà. Et à côté de ça, tu penses qu'il y a aussi une virilité dans la prestance?
Oui, clairement.
D'accord.
Il y a des gens qui dégagent quelque chose, en fait, qui...
Et là, on en revient, du coup, au côté plus moderne.
Au courtisan.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
D'accord, très bien.
C'est intéressant.
Et donc...
des gens, en fait, tu sens, en fait, que... Quand tu parles avec eux, tu vois, c'est des meneurs, tu vois, en fait, ils t'emmènent là où ils ont envie facilement. Parce que tu te sens en confiance, parce que, c'est pas forcément que du blabla, tu vois, il y a des actes qui sont là, tu connais la personne, mais...
D'accord, donc pour toi, là, oui, la virilité, ça va être cette capacité à être capable d'emmener un groupe, d'être un leader.
C'est ça.
Très bien. Donc, voilà, alors, je pense que, pour conclure cette émission, oui. Qui était la première... Hein, on fera mieux les prochains coups.
Bien sûr.
Finalement, les critères des Romains et des Grecs sont, je pense, dans l'inconscient collectif. On a toujours cette vision de l'homme viril d'un côté sur la puissance sexuelle, la puissance physique et l'art de la guerre et la capacité à mener des hommes.
Oui, tout à fait.
Et c'est vrai que même aujourd'hui, 2000 ans plus tard, un peu plus de 2000 ans plus tard, ces grandes lignes sont quand même restées. Voilà, on avait Mathias qui nous a accueilli, qui a été notre invité, qui est assez d'accord avec ces visions-là. Par la suite, on invitera des gens à savoir, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent, même la femme de 2021, la femme du quotidien, savoir ce qu'elle en pense elle aussi, quel type d'homme va l'attirer et... Qu'est-ce qui va le...
On aura plusieurs types de femmes en invité.
Bah, bien entendu, on essaiera de faire une grande variété pour...
Exactement.
Pour essayer d'affiner nos jugements et savoir ce qu'on en pense. Mais toi-même, Gaston, tu penses que la virilité, t'es assez proche d'une vision romaine?
Bah, en fait, on en revient souvent à ce qu'on échange souvent là-dessus, c'est-à-dire que le cerveau reptilien, le cerveau profond humain n'a pas changé tant que ça, finalement. La révolution, l'ère moderne, ça a 100 ans, 200 ans, je veux dire, tu changeras pas une biologie humaine qui a des millénaires, en fait, qui depuis que le monde est monde et que l'humain est sur Terre, ça va pas changer en une centaine d'années, et avec des ordinateurs, ça prendra des 1000, 2000 ans, et donc c'est pour ça que, bon, on en reparlera, mais malgré les discours qu'on peut entendre sur « moi j'aime les hommes galants, gentils, attentionnés »,
bien sûr, le courtisan.
Oui, certes, hein, mais pas que. Voilà. C'est-à-dire que bon, il y a encore toujours cette vision de chevalier, de propension à la violence.
Justement, alors, est-ce que le chevalier n'est pas indissociable du courtisan et que le courtisan n'est pas indissociable du chevalier?
Est-ce que moi, je pense que ceux qui arrivent à brasser les deux traits de caractère, justement, ceux-là s'en sortent très bien.
Oui.
Dans notre société.
Bien sûr.
Parce que ce sont des caméléons sociaux, et puis ce sont aussi des caméléons en termes de séduction. Mathias, je ne sais pas si tu nous as suivis là-dessus, mais en gros, c'est-à-dire que, bon, être viril, être beau gosse, c'est bien, mais en fait, si t'as, en gros, pour résumer, mais si t'as la tête, si t'as le cerveau, si tu sais parler, bon, ouais, c'est quand même mieux, quoi, je veux dire. Tu as plus de chances de plaire à encore beaucoup plus de monde. Pas forcément nana, hein, aussi dans le boulot, dans la vie,
oui,
tous les jours.
Après, voilà. Tous les goûts sont dans la nature.
Hein. Oui, bien entendu. Exactement. Bien entendu. Mais après, je pense que c'est un savant mélange qui dépend après de la sensibilité de chacun et de chacune.
Tout à fait.
Mais dans les grandes lignes, même plus de 2000 ans après, on reste quand même sur ces canons physiques et intellectuels.
Sélection naturelle.
Alors.
Bah c'est de la. En fait, c'est de le. Ce sont des vestiges. Reptiliens, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que ce sont des
réflexes, quoi.
Voilà, exactement, tout à fait. Et c'est comme ça, on les changera pas en 50 ans de progrès, d'ordinateur, de smartphone.
Certainement.
Voilà. Et heureusement, d'ailleurs.
Donc, tout à fait. En tout cas, Mathias, merci d'avoir participé à cette émission.
Il fut court, puisque Mathias...
arrivé un petit peu en retard.
Je lui avais donné une mauvaise heure, et malheureusement, il nous a rejoint un peu tard, mais c'est pas grave, c'est le plaisir de participer.
Voilà, Gaston.
Oui.
Ce fut un plaisir.
C'est un plaisir, Lorenzo.
Pour cette première.
Émission.
En tout cas, merci à tous.
En tout cas, voilà, merci.
Merci aux gens qui nous écouteront.
Prenez soin de vous.
Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, hein, bien entendu. Et à nous dire s'il y a d'autres sujets, enfin, si les sujets à l'avenir que vous voulez qu'on aborde, nous, on a déjà une petite liste.
Exactement.
Ben merci, merci Gaston.
Je t'en prie Lorenzo, c'est un plaisir. On se donne rendez-vous à la prochaine émission.
Merci, au revoir.